Merci de suivre Radio Okapi sur www.radiookapi.net. Ce soir, nous allons retrouver le Congolais de la diaspora qui se trouve présentement en Chine, mais il vit au Canada, il est donc canadien, ça fait 15 ans qu'il vit dans cette partie du monde. Bonsoir Philippe Walesa.
Oui, bonsoir.
Donc ça fait 15 ans, comme je l'ai dit, que vous vivez au Canada et vous travaillez dans le domaine de l'agro-industrie. Qu'est-ce qui vous a emmené en Chine pour commencer?
Oui, je travaille avec des organisations internationales, notamment Afrique International Mission. C'est une congrégation américaine qui est au Congo depuis 102 ans. Qui avait amené les histoires de la religion et qui s'est rendu compte que ça a un peu rendu les pasteurs comme les chrétiens assez pauvres et qu'il fallait maintenant chercher des voies et moyens pour créer la richesse et le revenu.
D'accord.
J'ai discuté avec eux pendant longtemps et puis ils m'ont envoyé pour acheter ce qui est nécessaire pour mettre en place une unité de production des aliments de volaille à Sikapa.
Et cette structure sera basée à Kinshasa ou ça sera basé au Canada où vous vivez?
Non, la structure est américaine. Elle est à Indiana, à Goshen, aux États-Unis, mais elle est beaucoup plus présente à Sikapa, là où ils ont leur siège social.
D'accord.
À Sikapa, où je me suis rendu en décembre de l'année passée. Ça doit se passer d'abord à Sikapa, puisqu'on s'est rendu compte que ils avaient été d'abord là pour l'évangélisation dans les années 1912.
D'accord. Revenons à vous, Philippe Walesa. Il y a 15 ans, vous êtes rendu au Canada. Pourquoi?
Bon, c'était dans les souhaits. Moi, je rêvais toujours d'aller
vivre à l'étranger, oui.
Par coup de chance, oui. Par coup de chance, et j'ai travaillé avec une compagnie qu'on appelle Spiti. C'est une société suisse qui s'occupe de l'élaboration des barrages hydroélectriques. Alors, nous avions un projet sur le Mali. Et nous l'avons exécuté et j'ai eu de l'argent avec ça. Et lorsque je me suis retrouvé en Suisse, la voie s'est ouverte pour finalement aller au Canada.
À vous entendre parler, vous n'êtes pas directement allé au Canada, vous êtes passé par d'autres pays, lesquels, si vous pouvez les citer rapidement, et puis nous donner la particularité de chacun d'entre eux.
Oui, et beaucoup, on a commencé par la Côte d'Ivoire, on est allé au Mali, on est allé au Sénégal, puis la Suisse, et les États-Unis, et finalement on a été au Canada.
Mais pourquoi avoir choisi le Canada? Parce que vous êtes passé par d'autres pays aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant qui vous a accroché et aujourd'hui vous y vivez, ça fait 15 ans environ?
Je dois dire que j'ai eu la chance puisque j'avais rencontré au niveau de la Suisse une fille dont l'oncle est président de la République du Mali actuellement. Alors, j'avais tissé des relations avec elle pendant que sa maman était directrice du cabinet de l'ancien président Alpha Conaré. Alors, j'ai vécu dans ces règnes-là et ça m'a beaucoup propulsé pour me retrouver au niveau de la Suisse. Et là, nous avons réalisé un projet d'études de faisabilité sur le barrage Kenny à Manantali, au Mali, et je me suis retrouvé avec beaucoup d'argent, et lorsqu'on a l'argent, toutes les situations deviennent faciles, et puis je pouvais me décider où je pouvais aller vivre et quoi je devais faire avec mon argent, et c'était le Canada qui m'était venu en tête.
D'accord. Et au Canada, vous vivez dans quelle ville exactement?
À Montréal, dans la province du Québec.
Vous avez préféré le français?
Oui, c'est ça.
Parlez-nous de Montréal, de votre ville. Comment est-elle exactement? Qu'est-ce que vous aimez là-bas et qu'est-ce que vous détestez aussi? Parce que sûrement, je crois qu'il y en a.
Oui, au niveau de Montréal, d'abord, les femmes font la loi avec les enfants. Et quand vous avez un problème, parce que le Canada, c'est dirigé par la reine d'Angleterre. Et lorsqu'on touche aux femmes ou lorsqu'on touche aux enfants, on touche à la reine directement. Alors, quand il y a des hommes qui amènent des femmes de Kinshasa ou d'ailleurs, et que quand ces femmes arrivent, elles se laissent influencer par la culture d'accueil, et ça ramène des problèmes au niveau du foyer. Bon, moi personnellement, j'avais été divorcé à cause de ces histoires-là. mais je ne les regrette pas quand même aujourd'hui. Alors, il y a des enfants qui sont quand même polis. Vous voyez, un enfant qui vous appelle M. Félix, votre propre enfant, et puis vous n'avez pas beaucoup de temps de les corriger, sinon il fait 911, il appelle la police, mm-hmm. et vous allez en prison. Alors, les enfants, on a peur d'eux, quand ils disent, papa, ça suffit, je vais faire 911, alors il faut y réfléchir. Des fois, ils font sortir. Et ça part avec lorsqu'on a une discussion à la maison, et les enfants commencent à dire, ça suffit, il faut sortir, sinon la police va venir à votre tour, et puis vous allez en prison. Donc, alors, c'est ce côté-là qu'on n'apprécie pas bien quand on est dans un contexte culturel congolais ou un contexte culturel africain. Mm-hmm. Donc, mais cela dit, il y a beaucoup de bons côtés. Mm-hmm. Par exemple, l'éducation, c'est accessible à tout le monde. Et le gouvernement intervient, même pour les gens qui n'ont pas d'argent, leur donne des moyens pour quand même se prendre. Et puis, la sécurité est beaucoup plus présente. Et beaucoup souvent, les taxes que l'on paye, on les ressent dans les services qu'on reçoit, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des distractions et ou de métro. Alors, on sent que c'est une ville intelligente, on sent que c'est une ville qui bouge par rapport à Kinshasa, à Bamako, ou encore à Dar es Salaam, où on sent qu'on est toujours dans la même dynamisme et qu'on n'est pas allé de l'avant.
Mmh. Vous avez comme l'impression que les parents ont les mains liées et les enfants sont beaucoup plus libres, n'est-ce pas? C'est ça, en fait, ce que vous voulez nous dire?
On est beaucoup liés. Et si c'était à refaire, j'aurais souhaité faire des enfants au niveau du Congo ou encore au niveau de notre pays d'Afrique, les élever jusqu'à 18 ans avant de décider de les renvoyer dans un pays comme le Canada.
D'accord. Et côté accessibilité, quand on est étranger au Canada, est-ce qu'on y vit facilement? Est-ce qu'il y a beaucoup de restrictions? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas natif de là?
Je dois vous avouer que le Canada, c'est un pays policier, hein, et en même temps, c'est un pays beaucoup plus hypocrite comme tous les autres. Alors, il y a des programmes qui sont mis en œuvre, notamment, on parle de la minorité, mais quand il y a, par exemple, du travail, et qu'il y a un Congolais qui a fini, un Africain qui a fini, mais on va donner ça à un Québécois parce que ils disent que les autres sont des voleurs de Dieu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fini, qui ont des beaux diplômes, mais qui travaillent dans les champs. Ils vont ils se mettent sur des tracteurs, on leur paye 8 dollars de l'heure, mais ils ont besoin de ça pour payer les loyers. Ils ont besoin de ça pour avoir un peu d'argent à Kinshasa ou en Afrique. Alors, cette discrimination-là, même si on l'appelle positive, elle est présente. Elle est présente. Elle le détruit et puis elle ramène à la mort, si j'ai plus de sens.
Mmh. D'accord, avant de clore cet entretien, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou à dire par rapport à votre vie au Canada ou ce que vous faites comme activité, M. Philippe?
Oui, je peux dire qu'au niveau du Canada, j'ai ma compagnie canadienne de croissance qui est là depuis 15 ans. Ça m'aide à atteindre tous les sommets. Avec ça, j'ai eu à rencontrer, par exemple, le président du Mali ou encore sa femme. J'ai organisé des conférences sous les régides. Mm-hmm. Je rencontre n'importe qui que je vais et chacun m'écoute. Alors, je me dis, pour les Congolais, que ce soit ceux qui sont restés au Congo ou qui sont encore à l'étranger, c'est le moment, au lieu de toujours accuser le gouvernement que le gouvernement ne fait rien, il faut quand même que les Congolais deviennent des créateurs de richesse.
D'accord.
Et d'emploi. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la Chine, on peut importer des technologies. On peut les. Je donne par exemple, j'ai vu quelqu'un qui avait acheté ici une petite usine pour fabrication de papier génique. Mais il semble qu'au niveau de Kinshasa, il en fait 2 millions. Alors, on peut s'approprier de petites technologies, ramener dans ce pays-là, créer la richesse et en faire une puissance économique qui, avec des retombées, parvient à satisfaire les besoins de ce qu'on a laissé et ce qu'on a, on a pas fabriqué, mais qu'on a encore donné la vie de l'autre côté.
Mmh. J'espère que vous avez boosté tous ceux qui n'ont pas conscience de cela, M. Philito. Allez, ça, c'est un plaisir pour nous de parler avec vous de votre vie au Canada. Je l'ai dit, présentement, vous êtes en Chine, d'où nous avons réussi à vous joindre pour vos activités ou pour vos affaires. J'espère que ça va aller de mieux en mieux et que vous pourrez atteindre vos objectifs. À très bientôt sur Radio Capi.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.